Naturelle, le podcast qui parle de notre rapport à la nature à travers des regards et des approches multiples. Animé par Tassani Allo. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Histoire Naturelle. Dans cet épisode hors série, nous avons poursuivi la conversation avec Maxime d'Apocalypticart, qui était présent dans les deux derniers épisodes sur la science-fiction et la littérature. Cette conversation a été enregistrée sur le registre informel et elle nous a permis d'évoquer d'autres œuvres au cinéma et dans la littérature. Vous trouverez toutes les informations dans la barre de description. Et nous souhaitons à ce sujet de se développer dans plein de petits podcasts à suivre. Dans la barre de description, vous trouverez plusieurs articles que je vous mets en bibliographie pour que vous lisiez certains points de vue sur ce dont on va parler dans ce podcast. Nous avons notamment évoqué le manque de diversité et de représentativité dans les jeux vidéo de science-fiction ou de gestion. Nous avons évoqué également le manque de représentativité dans les films de science-fiction. Nous avons parlé de l'afrofuturisme et je vous laisse donc un article et une émission radio sur ce sujet. Et puis, évidemment, nous avons parlé de quelques livres, dont un sur les champignons, et là je vous laisse écouter le podcast. Enfin, vous trouverez également un article sur le jeu Anno 1800, dont le manque de représentativité et de diversité est flagrant. Bonne écoute!
Non, mais tu sais, moi, dès que tu m'as parlé de ton sujet de thèse et de tout ce qui gravite autour, je trouvais ça assez incroyable. Et c'est vraiment ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans la science-fiction moderne et dans les jeux qui abordent souvent un renouveau du monde, ce retour à la nature.
Ce qui est marrant, c'est que en fait, c'est depuis que j'ai commencé mon sujet de thèse, même quand j'étais aux Beaux-Arts, que je m'intéressais aux racines, ben ça m'a mise dans la science-fiction parce que tu sais, j'ai fait un petit dossier sur les motifs un peu végétalisants dans les vaisseaux ou dans les films de science-fiction. C'est très végétalisant les décors, tu sais, c'est organique. Mm-hmm. Et on dirait parfois qu'il y a des troncs d'arbres, dans les murs, qu'il y a des racines partout. Ça m'a fascinée. Il y a quelqu'un qui avait fait une étude sur les décors organiques comme ça, parce que ça date de l'Art Nouveau, tu sais, avec tous les magnifiques décors vitraux, enfin tout ce qui était avec des végétaux, et ça c'est fascinant. Et ça a été repris, c'est vrai, dans les films de science-fiction.
C'est comme s'il y avait une volonté de faire cohabiter en fait toujours la mécanique et les technologies et la nature. Et je dis, regardez, on peut vraiment faire en sorte que quand on fait quand on pousse l'industrie à son paroxysme, on peut quand même cohabiter avec la nature. Et c'est assez paradoxal puisque c'est exactement ce qu'on est en train de voir aujourd'hui et c'est pas du tout ce qui est en train de se passer en fait.
Oui, il y a un mouvement inverse, enfin, en tout cas il y a un mouvement de défiance des gens, c'est un peu étrange. À la fois il y a quand même beaucoup de gens qui commencent à s'intéresser de plus près à la nature, il y a quand même les deux qui s'opposent, mais de l'autre côté il y a des gens vraiment qui s'en foutent, et qui sont...
Mais oui, c'est ça.
Ouais, le progrès en fait, faudrait redéfinir, c'est comme le mot de croissance en économie, la croissance.
Je suis d'accord avec toi, bien sûr. Tous ces mots, progrès, croissance, évolution, il faudrait vraiment redéfinir et passer la nature au centre, en fait.
C'est ça.
Et c'est un peu ce que la SF contemporaine essaye de faire, j'ai l'impression. Sur ce qu'on peut retrouver, surtout, c'est dans l'afrofuturisme. On en parlait dans le podcast, mais effectivement... Binti et Zoo City de Lauren Boykus, c'est vraiment un retour à l'animal, un retour au tribal et vraiment à la terre rouge, à la terre des ancêtres, et de pouvoir tirer un pouvoir anti-industriel presque, ou alors qui peut vraiment s'accorder, mais vraiment presque en symbiose. Et encore, la symbiose, c'est souvent ce qu'on utilise dans le langage floral ou plutôt dans... Et c'est ça qui est intéressant.
Bah, la symbiose, c'est un terme vachement organique, hein, ça se rapporte toujours à la science. C'est vrai que ce qui est fascinant dans la science-fiction, c'est ce que... Enfin, moi, j'aime bien les sciences. Après, il y en avait qui me disaient par messagerie que c'est vrai que la science-fiction, ça allait rebuter parce qu'il y avait beaucoup de science dedans. C'était peut-être... En fait, c'est marrant parce que c'est à la fois un genre qui va très loin et qui n'est pas du tout... qui est complètement des mondes alternatifs qui ne représentent pas du tout la réalité, alors qu'en fait, ça s'appuie sur des réalités très concrètes. Ça qui est étrange avec la science-fiction. C'est plus encore que la fantasy. Ou...
Oui, la fantasy, on prendra plus on prendra moins de pincettes, assez étrangement d'ailleurs, parce que on est toujours dans le fantasme du Moyen-Âge, des sorcières, ou alors du bon voleur, ou des guerriers valeureux, avec souvent malheureusement des valeurs encore très, très ancrées, patriarcales, très force honneur patrie. Et alors que la science-fiction, même là, en lisant les Annales de la Compagnie Noire, que j'adore, je trouve qu'il y a encore enfin, souvent la femme, alors bon, là pour le coup, les personnages féminins sont quand même très badass, mais on reste quand même sur une violence saine, sur des haines justifiées, alors que c'est quand même des comportements et des sentiments qui sont pas vraiment positifs. Et je trouve que la science-fiction, elle tend à déconstruire ces choses-là. Et effectivement, il y a de la science, je suis d'accord avec toi, mais il y a énormément, énormément d'imaginaire. Tu vois, il y a quand même des pans de science-fiction. RDSF, forcément, c'est ce qui tend le plus à se rapprocher de la science. Mais on a le cyberpunk, c'est du grand n'importe quoi. C'est des machines qui sont ancrées en nous, avec souvent un monde dystopique où les grandes firmes internationales ont pris le pouvoir. C'est en fait grossir le trait, en fait, tout simplement. Mais pour moi, il n'y a pas de science là-dedans. C'est plus de l'industrie, tu vois, qui aurait
Oui, le
toutes les...
cyberpunk, c'est plus bah, le progrès technologique qui a pris le dessus sur les valeurs sociales, éthiques, les valeurs morales en fait, qui ont disparu. Et c'est intéressant d'ailleurs, le cyberpunk, c'est intéressant à étudier dans nos champs disciplinaires de l'histoire médiévale ou l'histoire de l'époque moderne, parce que les cyberpunk, c'est le retour à une sorte de féodalisme, de néo-féodalisme. Ou alors aussi, ça peut être retranscrit, comme tu dis, avec la révolution industrielle, où tu as vraiment le retour à la servitude, et puis aussi au caste, enfin, toutes ces choses qui sont très médiévales, en fait. Et en fait, le cyberpunk, moi, ça a tendance à me déprimer. Par contre, j'aime bien l'esthétique. C'est ça qui m'intéresse.
Je t'avoue, c'est déprimant. Quand j'ai lu le neuromancien Compte Zéro et Mona Lisa s'éclate, donc de William Gibson, c'est déprimant. C'est vraiment des personnages qui sont ultra mal dans leur tête, qui sont accros aux drogues et à toutes sortes de substances. Alors, c'est même des substances ultra chimiques et toutes synthétisées qui donnent, je sais pas en fait ce que ça donne. A priori, ça leur donne le pouvoir de s'échapper du monde et juste de pouvoir rêver à un autre monde, mais ça les détruit en fait physiquement, moralement, psychiquement. Mais effectivement, l'esthétique est incroyable. Glenn Gibson a été l'un des premiers à parler, je sais plus comment il a appelé ça, mais c'était Internet. Il parlait déjà d'Internet, il parlait déjà qu'il y ait des dieux dans Internet. Et ça, je trouvais ça incroyable à l'époque déjà, de penser comme ça. Alors que, au niveau de l'avancement du web, on était à peine au premier message envoyé, tu vois.
Moi, pour moi, comme je te disais dans le podcast, le web, pour moi, c'est la magie, en fait.
Ouais, tu m'avais eu.
On a transposé notre incapacité à faire de la magie dans l'internet, la rapidité de
Ouais,
transmission
c'est.
des infos, c'est le réseau avec un
Ouais, c'est
grand R.
ça, c'est exactement ça. C'est le réseau, c'est ces espèces de choses qui nous connectent, des fois même malgré nous, et qui. C'est notre super grand pouvoir de l'humanité, quoi. C'est pouvoir tous nous connecter au même moment, à un instant T. C'est assez incroyable, clairement. Mais je suis d'accord avec toi. cette façon de voir, j'aime beaucoup. Et je lisais un essai sur l'histoire des médias et qui justement explique que de tout temps, on a toujours essayé de communiquer, de transmettre, peu importe les années, peu importe le moyen de communication, on a toujours essayé de transmettre. C'est comme si avec le web, on était arrivé à la fin en fait de ce besoin, de cette envie, et que on atteint un palier, on ne sait plus trop, à part donner de la vitesse, encore de la vitesse.
Je pense qu'il y a tout, enfin dans la vision, après peut-être pas nous en Europe, mais dans la vision peut-être asiatique, il y a cette vision de la ville, comme ton film préféré Blade Runner, où t'as toutes les voitures qui vont être volantes et donc vont être forcément sans pilote, vont être connectées à un réseau, enfin tout est contrôlé comme ça, les flics sont des robots, enfin tu vois. Et ça sera forcément connecté à un réseau, enfin c'est un monde complètement absurde en quelque sorte, hein, mais...
Surtout que là aujourd'hui on s'en sort plus avec tout ce qui est archivage. Tu vois, toutes ces métadonnées, gigadonnées, pétadonnées qu'on a, et en fait à un moment on va faire le tri.
Ouais.
Et ça me fait penser à la BD Préférence Système de Hugo Bienvenu.
Oui.
Je sais pas si tu l'as lu.
Non, je l'ai pas lu.
Elle est incroyable. En gros, c'est, pour faire simple, c'est un mec qui est dans un système d'archivage et qui doit à chaque fois supprimer des données pour faire de la place. Et moi, je retrouve devant 2001 Odyssée de l'espace et on me dit, en fait, il faut que vous supprimiez ce film-là. Il faut qu'il sorte de tous les réseaux et on ne va plus entendre parler.
Ouais.
Et il dit, ok, je le fais, à contre-cœur complètement. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'à chaque fois, il sauvegarde illégalement, puisque du coup, ça fait de la... Et en fait, il le donne à son robot. Et son robot va, en fonction de tout ce qu'il lui a donné, apprendre à sa fille à l'éduquer, parce que le parent va mourir dans un accident de voiture. Ouais. Mm-hmm. Et c'est incroyable d'aller jusque là, parce que le système d'archivage, les archives, c'est quelque chose qu'on réfléchit depuis la bibliothèque d'Alexandrie.
Ouais.
Et il n'y a plus de place, en fait. Il n'y a clairement plus de place. Ou alors, comme dans Fondation, prend le cerveau de la planète et puis on la met ailleurs, quoi. Mais c'est pas possible. Tu vas pas coloniser une planète juste pour archiver quelque chose.
Oui, on est très génétiquement matérialiste, malgré tout. Malgré la mode du comment ça s'appelle, minimalisme.
Oui, le minimalisme, oui, c'est ça.
Parce que je pense que c'est vraiment nous. On le voit bien d'ailleurs avec, par exemple, quand des monuments brûlent comme Notre-Dame de Paris et que ça fait une émotion incroyable chez la plupart des gens. Et souvent, ça, c'est assez retranscrit dans la science-fiction. Il y a beaucoup d'imaginaire de la ruine. Donc,
oui, je suis totalement d'accord avec toi.
De l'abandon.
Ouais. L'abandon, la ruine, bien sûr, les vestiges d'anciennes civilisations. Mmh. Mais effectivement, il y avait ça. Et puis, pour reprendre toujours Fondation... Il y a toujours, les deux derniers, il y a ce voyage où ils vont essayer de retrouver la Terre. Et ils vont tomber sur des planètes que les humains ont colonisées avant de quitter la Terre. Et tu te retrouves, en fait, c'est incroyable. Tu vois les vestiges qu'ils ont laissés.
Souvent, dans la science-fiction, les auteurs, que ce soit dans les films ou les livres, les auteurs partent du principe que, que chaque civilisation, même extraterrestre, se détermine par... si la planète a été abandonnée, en tout cas, par la ruine. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est pas... Je pense que s'il y a une autre civilisation extraterrestre, elle ne vivra pas forcément sur ce principe matérialiste comme nous, les humains. Donc c'est intéressant, cette transposition. Mais là, il y a un magnifique livre qui est sorti par un archéologue qui s'appelle Ruine avec un S, l'archéologue Alain Schnapp. Et c'est marrant de voir justement l'esthétique des ruines qu'on retrouve énormément dans tous ces films de science-fiction, de fantasy... Je crois que vraiment, quand t'as des chefs décorateurs dans les films, je pense que la première esthétique sur laquelle ils s'appuient, c'est l'esthétique de la ruine, en fait. Le château en ruine, la ville en ruine.
Surtout pour marquer, bien sûr, pour marquer un univers. Mm-hmm. C'est presque des codes aujourd'hui, ouais. Tu vois. Hier, on a regardé Pacific Rim. Et pour rebondir justement sur ces extraterrestres, en gros, ils partent du principe que c'est des dinosaures qui se sont barrés et qui sont partis dans leur monde et qu'ils ont rouvert une faille parce qu'ils se disent maintenant prêts à coloniser la planète Terre. Mais en gros, ils la détruisent avant. Tu vois? Le but, c'est de détruire la planète Terre, de la réduire à néant et de vivre après là-dessus. C'est étrange quand même de partir de ça, quoi. Ah, ok, ils sont pas adaptés, ça c'est certain, mais quand même, tu vois, partir de ce concept de on détruit tout, on laisse quelques fragments, parce que voilà, et pourquoi laisser toujours un souvenir en fait?
Ouais, on
C'est
était
ça,
d'accord
pourquoi
là.
laisser un souvenir via la ruine? Je pense que la science-fiction, c'est le meilleur, pour moi, le meilleur média pour traduire ce qu'on vit en ce moment. Il n'y a pas mieux aujourd'hui, je pense. On peut se retrouver dans des écrits de Victor Hugo, dans des écrits de littérature, on va dire, un peu plus classique. J'aime pas du tout ce mot, parce que classique, c'est souvent au détriment de La Route, par exemple, de McCarthy, ou du chef-d'œuvre de Lovecraft au niveau des montagnes hallucinées, tout ça. Et souvent, c'est. Enfin, mais une littérature plus ancienne. Et je trouve qu'aujourd'hui, la science-fiction, c'est vraiment le média le plus juste sur la situation. Et sur ce qui peut arriver et sur ce qui arrivera.
Mais
Tu vois ce que je veux dire?
ouais. C'est vrai que bah là avec le podcast qu'on avait enregistré aussi avec sur ce live air avec Johan Chanoir, on voit qu'il y a plusieurs types de science-fiction. Il y a quand même une science-fiction qui est très nettement brutale et directement dans la violence et dans l'excès. Enfin, même si l'excès, quand on re-regarde Soleil Vert, on n'est pas loin de choses qui existent en vrai dans certains endroits de la Terre. Mais
Oui,
par
je suis d'accord
contre,
avec toi.
voilà. Mais par contre, il y a aussi des science-fiction qui sont peut-être plus soft et dont certaines personnes ont tendance un petit peu à pas à se moquer, mais à dire bon, ça va pas au bout du sujet, alors que souvent c'est une science-fiction qui dépeint un problème qui n'a pas été envisagé encore à part par les scientifiques. Comme par exemple, je pensais récemment, c'était Maya Lund qui a écrit un livre sur l'histoire, sur la disparition des abeilles et puis sur la disparition de l'eau. Il y a deux livres. Et donc, bon, j'ai lu les deux. Bon, après l'écriture, on adhère ou on adhère pas, ça c'est un problème de littérature. Mais
Bien sûr.
puis en plus, bon, bah, c'est traduit, donc c'est compliqué. Mais par contre, il y avait une véritable urgence dans son écriture quand elle dépeint la disparition des abeilles, c'est la disparition du monde. Ça paraît, enfin, les gens, ils se disent non, c'est pas possible, on va pas disparaître si les abeilles disparaissent.
Là, t'as tout un écosystème qui est déglingué, en
Voilà.
fait.
Et puis la disparition de l'eau, bon bah là par contre les gens comprennent mieux, c'est beaucoup plus, ça illustre beaucoup plus le problème. Mais par contre, ce qu'on n'envisage pas, c'est que le problème de l'eau arrive dans 20 ans, 30 ans. Et là, elle, dans son livre, le problème de l'eau, il arrive maintenant. Ce qui est déjà le cas
Oui.
dans des zones très arides comme l'Afrique, des choses comme ça.
Le stress hydrique, hein, bien sûr. Predator 2, c'est ça, hein, c'est la jungle urbaine, ce qui se passe. Dans Predator 1, c'est la jungle et retour à l'humanité. Et dans Predator 2, c'est la jungle urbaine. C'est la violence urbaine, les fondations qui se détériorent, la chaleur énorme. Je me souviens, voilà, c'est hyper intéressant à étudier. Mais tu vois, en général, un livre de science-fiction qui va parler, qui va être un peu dystopique, il va partir, en général, d'une catastrophe. Il n'y a plus d'eau, il fait trop chaud, il y a un virus, il n'y a plus de place. Et c'est souvent ça, tu vois. Et je crois que j'ai lu pas mal de situations de départ, justement. Et ouais, c'est tout le temps l'impression qu'on se dirige, mais vers toute. Tu vois, il n'y a plus de place, donc on construit à la verticale. Il n'y a plus de place, donc faut faire un tri dans les données. Alors c'est pas grave, on construit encore plus de data centers qui vont encore plus aider au réchauffement climatique. Il y a trop d'industrialisation, c'est pas grave, on continue quand même. Enfin, et c'est incroyable en fait, c'est incroyable de se dire que ça fait 200 ans qu'on nous prévient que si on continue à faire ce qu'on fait, ça, on va droit dans le mur.
Ouais, c'est ce qui est marrant, c'est que ça me fait penser dans les films de science-fiction ou dans les livres, et c'est souvent donc parti, comme tu dis, d'une catastrophe naturelle, et souvent ça dépeint plutôt soit l'été où il fait trop chaud, un peu comme Soleil Vert où tout le monde transpire comme des porcs, enfin, c'est terrifiant ce film, ou alors ça, le contraire, comme La Route, c'est l'hiver, on n'en peut plus, il fait trop froid.
L'hiver, ouais. Un hiver atomique en plus, hein,
Ouais,
qui
voilà.
s'arrête jamais.
Oui, c'est des cendres, c'est carrément même plus de la neige. Et il n'y a pas de printemps dans les films de science-fiction, ou rarement en tout cas, la croissance naturelle s'arrête. Par contre, la croissance humaine est décuplée, exponentielle.
Elle glow up complètement, c'est incroyable, mais oui, elle glow up de. On dit, tu vois, je suis dans un lycée agricole en tant que documentaliste et des fois on aborde ce genre de sujet par rapport au réchauffement climatique et ils me disent en fait maintenant ce qu'on fait c'est qu'on se base sur 2 saisons. 6 mois, 6 mois. Mais c'est incroyable de devoir faire ça. Mais ouais, c'est. Il y a plus de. En fait, il y a 2 saisons où tu vas devoir comment dire, synthétiser un cycle, en fait, synthétiser une saison. J'ai un élève qui travaille sur. C'est sur quoi? C'est sur l'économie circulaire et il parlait des. Alors lui, il s'est plus concentré sur les fermes industrielles, tu sais, celles où on reprend des hangars, on les retape, pas trop pour qu'il reste humidité, on fait pousser des travées de champignons sur des poteaux en métal. Enfin, c'est incroyable, la pisciculture qui va former un champignon que tu peux recycler et tout. Et. Tu dis, waouh, mais on en est dans combien de temps? Je lui demande, en fait, c'est déjà disponible, on le fait déjà.
Les champignons, ce qui est drôle, alors il y a un livre qui est paru il y a pas longtemps, mais je sais pas, je crois qu'il est peut-être qu'en anglais, sur le champignon, parce que le champignon, en fait, enfin, les champignons, c'est la clé, ça serait la clé de notre.
Oui, c'est
Donc
ça.
là, mon cher compagnon Arnaud n'est pas d'accord parce qu'il déteste les champignons, mais en fait, si c'est la clé. De notre peut-être pas de notre survie, parce qu'on peut aussi évacuer le fait qu'on va survivre ou pas, on n'en sait rien, chaque espèce est fragile,
Oui.
et bref. Mais en tout cas, le champignon, ça serait une clé pour tout. En fait, les scientifiques qui s'intéressent aux champignons actuellement sont peut-être les scientifiques les plus en vogue, sans le savoir, parce que évidemment c'est pas très marketing. Mais voilà, tout ce qui est travail sur le champignon, mais aussi tout ce qui travaille sur les bactéries ou la fermentation, toutes ces choses, c'est la clé du vivant qu'on a toujours mis de côté. En plus, toutes ces choses sur, tu sais, sur la pourriture, les moisissures, les choses qu'on regarde pas.
Ouais, bien sûr. Oui, c'est pas,
Et
c'est comme tu dis, c'est pas glamour, hein, d'en
ah bah
parler.
non, non, pourtant dans la science-fiction, c'est vrai que souvent, c'est plus cette esthétique-là qu'il y a. Et évidemment, une fois de plus, c'est bien ça qui risque de sauver un peu les êtres vivants qui vont rester sur Terre à l'avenir. Et ça, bon, bah, l'avenir, on peut pas le lire, on sait pas exactement. Donc la science-fiction, moi je pense, elle a un rôle justement de réfléchir à ça, à ce cycle dont tu parles. Que ce soit le cycle des saisons, le cycle de production des choses, les réseaux, tout
Bien
ça.
sûr. Je pense que c'est devenu l'un des gens les plus politiques et celui dont on attend le plus aujourd'hui. Et tu vois, je sais pas, dans 100 ou 200 ans, ça deviendra peut-être des bouquins de recherche. Chaque roman sera peut-être. Je sais pas, je pense qu'elle a un rôle à jouer qui n'est pas aussi trivial que. Bref, que des romans de Guillaume Musso. Bon, voilà.
Non, mais c'est vrai que. Non, mais quand tu vois que Soleil Vert a été un échec commercial monstrueux pour la compagnie qui a produite, quand tu vois que
Le
tout le monde
Blade Runner
se.
aussi, hein.
Que voilà, Blade Runner ou même 2001, l'Odyssée de l'espace, qui n'était pas un
Ça a
succès
été des
en
fous, quoi,
salle,
quand ils sont sortis.
exactement. Alors que c'était l'époque, les années 60, 70, des grands space opéras, de la science-fiction, Star Wars et compagnie. Star Trek, enfin tout ça. Et c'est vrai que ce sont des échecs commerciaux, mais qui aujourd'hui sont scrutés à la loupe
Oui,
par
ah oui.
des champs disciplinaires très 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 différents en plus.
Vaste. Bien sûr, oui. Hey, ils sont à la convergence, bien sûr, c'est certain. Et pourquoi? Parce qu'à l'époque, on ne s'y intéressait pas, on ne voulait pas s'intéresser au fait que ça va aller mal, puisqu'on sortait des Trente Glorieuses, on enchaînait avec aucune période de dépression, que du bon, que du bon. Et c'est après où ça a merdé, où on a commencé. J'irai pas les années, j'irai pas 2008, parce que c'est depuis bien avant. Mais c'est après où ça a complètement flanché, quoi. Donc forcément, t'as pas envie de t'y intéresser. Ou alors, c'est trop proche, tu sais. Je pense à des films un peu. On rigole un peu, mais tu vois, mais par exemple, 2012,
Ah oui.
catastrophe naturelle,
Ouais.
catastrophique au niveau du scénario, etc.
Oui.
Mais à un moment, il y a des inondations partout dans le monde. Une arche de Noé qui n'est pas obligée, qui flotte tout le temps, c'est pas déconnant. Pour reconstruire, pour permettre aux gens juste de se ravitailler facilement et tout, de se dire que quelque part il pourrait y avoir des grands bâtiments qui permettent de flotter.
Le problème, je pense, de ce que tu dis, c'est le thème qui fait que Frédéric Vidal nous a traités d'islamo-gauchistes récemment, parce que le problème, c'est la colonisation. C'est notre. Déjà, il y a le côté matérialiste, donc on peut pas ne pas faire avec. On est comme ça, bon, c'est comme ça, c'est humain. Et on a cette propension à la colonisation de la nature, à la colonisation d'autres peuples, etc. Et ça, c'est un problème. Qu'on n'arrive pas à régler parce qu'beaucoup de compagnies, de scientifiques aussi ne trouvent pas l'empathie adéquate pour comprendre ce qu'il y a en face, ce qui tente du coup de coloniser, parce qu'on appelle ça vraiment colonisation aujourd'hui maintenant pour la nature en tout cas. Et donc c'est un problème qu'il faudra régler parce que je pense que la solution tout de même si oui, il y a toujours des gens qui disent qu'il ne faut pas intervenir partout tout le temps. L'intervention, si elle est là pour dans le cadre de la protection, c'est autre chose. Je pense que c'est un rôle que l'humain, comme d'autres espèces animales qui sont commensales, sont là pour ça. C'est se protéger tous entre nous quand c'est possible, mais pas dans un esprit de colonisation. Et là, c'est trouver un juste équilibre. C'est l'invention du colonialisme vert
Ah, rien que le nom du titre.
de Guillaume Blanc. Qui parle des réserves, des grands parcs de naturels et des réserves naturelles en Afrique qui sont seulement des modèles, des copies d'actes de colonisation par des ONG parfois, par des États africains eux-mêmes qui, en mettant la nature sous cloche, font plus de mal à cette nature. Et donc ça, c'est très science-fiction pour moi, et c'est ce qu'on vit actuellement.
Ah oui, c'est ce qu'on. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Mettre la nature sous cloche pour qu'il y ait un carré vert quelque part, pour respirer, bien sûr. Mais regarde Central Park, c'est un carré vert au milieu de 875 buildings énormes qui produisent des empreintes carbone incroyables. Alors ouais, ça permet de faire du jogging et de tourner la plupart des épisodes des experts. Ok, très bien. Mais à côté de ça, on. Écoute, c'est vraiment, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Mettre la nature sous cloche, c'est de la science-fiction, clairement. D'ailleurs, ça commence à être un genre de la science-fiction, c'est la biutopie.
La biotopie.
Et Alain Damasio, je crois que dans Les Furtifs, on parle un petit peu. Dans Horde de Contrevent, vers la fin aussi, une espèce de personnage qui est une plante, qui revient à l'aspect plante, mais tu vois, qui est sur un tout petit aspect. Un tout petit carré. Et c'est ça qui est intéressant avec la science-fiction, c'est que la science-fiction, très rarement, elle déplace le problème. Elle met le doigt dessus, et ensuite on part dedans et on voit les tenants et les aboutissants. Et donc c'est ça, c'est que on tourne jamais autour du pot dans SF. On trouve le problème, et on va au fond, et on regarde tout ce qui est conséquences, beaucoup les conséquences, très peu ce qui se passe après. Mais oui.
Mais c'est amusant parce que là, du coup, pour le préparer nos podcasts sur la science-fiction, j'ai vraiment essayé de regarder, faire le tour de donc, tous les films ou les ouvrages de science-fiction. Et donc, comme je t'avais dit, c'est étonnant comme parfois on éradique totalement la nature et éradiquée de certaines intrigues. Même dans Blade Runner, bon bah si tu cherches la moindre pousse d'arbre, vas-y, hein, tu le dis. Mais voilà,
Ah non, la moindre pousse d'arbre,
c'est
c'est trop.
plutôt, c'est on voit plutôt carrément de la poussière de ce qui resterait d'organique, la
C'est
poussière qui est
ça,
volante,
exact.
un peu jaunâtre, à travers les fenêtres. Et là, c'est étonnant. Et pourtant, je pense que dans Blade Runner et puis dans tout un tas d'autres films ou livres où la nature est absente, c'est philosophiquement en fait que les auteurs parlent de la nature. C'est dans leur tête, dans leur esprit, bien sûr qu'elle est là, la nature. En fait, la nature, elle est là toujours comme une sorte d'ombre. Donc en fait, ce sont des métaphores complexes qu'il faut essayer de... Et beaucoup de gens ont peut-être du mal, ont pas forcément les clés de lecture. Et je pense que c'est pour ça qu'il faudrait l'enseigner plus au collège ou au lycée. Parce que moi, personnellement, j'ai pas du tout étudié de science-fiction au collège ou au lycée. Enfin, là, j'essaie de me souvenir dans mon
Peut-être
lycée.
1984, non?
Non, je l'ai étudié à la fac d'anglais. Donc, j'ai pas étudié. J'avais La Ferme des animaux, mais
Ah, d'accord.
qui n'est pas vraiment de la science-fiction au sens propre du terme. C'est plus dystopique et puis une tête.
Oui, elle-même, c'est vraiment pour expliquer comment Staline s'est servi de l'Ukraine
Oui.
pour enrichir la Russie, quoi, pas l'URSS.
C'est vraiment à la fois dystopique et chronique. Hein. Enfin, entre les
Ouais.
deux. C'est une réécriture aussi un peu
C'est ça.
de ce qu'il vivait, hein, ce qu'il a connu. Les jeux de
On n'a pas
Non.
trop parlé d'ailleurs dans le podcast des jeux d'SF.
Non, c'est vrai que c'est un truc hyper intéressant parce que là, moi, je repense. Enfin, moi, je connais que les jeux après tu sais, de gestion ou de construction.
Ouais.
Et là, oui, je vois bien dans la série des. Ah, ben, c'est Anno 2000. Non, moi, je parle de Anno.
Ah, les anneaux,
2205. Ah, voilà, c'est ça? Oui, 2200.
oui.
Qui donc fut
J'ai jamais
un
joué.
échec. Non, mais voilà, moi je pensais à cette façon d'exploiter la science-fiction, les univers de science-fiction et puis la conquête de l'espace dans les jeux vidéo, c'est souvent plus des jeux de gestion ou de RPG, peut-être des choses, c'est plus des jeux de contrôle, bah de colonisation en fait. Hein. J'ai racheté Anno 1800 et donc j'ai joué un petit peu. Et donc 1800, ça se passe. Au début de cette ère industrielle, de cette révolution industrielle qui n'a pas qu'un seul impact européen, mais aussi qui part dans les colonies
Non.
et qui,
Bien
bah,
sûr.
qui s'étend partout dans le monde, ce qui d'ailleurs bouleverse totalement les visées nationalistes de certains États modernes. Et donc du coup, dans cet anno 1800, les Européens, les colons partent en Amérique, Amérique. Du Nord, Amérique du Sud, etc. Et
Ouais.
il y a les révoltes ouvrières, il y a tout ça. Mais
Oui.
il n'y a pas les anciennes colonies esclavagistes, il n'y a pas cette histoire de qu'est-ce qu'on a fait des anciens, des nouveaux Africains-Américains, il n'y a rien.
Incroyable. Il n'y a même pas. Est-ce qu'il y a les Anglais, l'Inde et tout ça?
Non, ça m'a choqué. Mais c'est
Je pense pas
carrément.
jouer, mais juste.
Voilà, didactique, il faudrait une note pédagogique qui rentre dans le
Clairement.
cadre vidéoludique. Et là, il y a pour l'instant, dans l'avancement de mon jeu, il n'y a rien. Ce qui m'embête énormément.
Mais tu m'étonnes, mais c'est incroyable de faire l'impasse à ce point et juste de faire un jeu alors, pro-occidental, occidental, quoi.
Ah ben ça.
Le gentil blanc n'est pas du tout un colonisateur. C'est presque de la réécriture d'histoire à ce niveau-là, parce que Anno, c'est quand même un jeu qui se veut assez proche historiquement, ou alors qui a l'ambition de proposer un contenu historiquement fiable.
De toute façon, c'est
Et
vrai.
oublier ce pan de l'histoire, c'est se mentir à soi-même, presque faire du négationnisme au final.
Que tu regardes
Oui.
du côté des Assassin's Creed,
Oui.
même des civilisations qui parlent donc des civilisations. Donc, tu as la civilisation asiatique, la civilisation turque, la civilisation anglaise, espagnole, gnagnagna. Mais t'as pas trop les pays d'Afrique, les. En fait, c'est au choix, quoi, c'est choisi. Morceau choisi.
C'est ça, mais c'est où tu te dis, ben oui, c'est normal, puisqu'on les a colonisés, on a pillé toutes leurs ressources, il serait peut-être temps d'arrêter de les invisibiliser. On discutait un peu hier de cinéma avec Elise, où c'était ce matin, et on se rendait compte que le cinéma, c'est très politique, et qu'encore plus aujourd'hui, avec la représentation des genres, le féminin, et même au niveau des peuples, des nations africaines, c'est encore très très rare qu'il y ait un noir qui soit pas anglais ou qui soit vraiment, tu vois, qui soit du Nigérian,
Oui, c'est ça.
équatorien, enfin tu vois, qui soit et qui ait son propre arc narratif, qui soit pas la seule du héros blanc ou qui soit dans l'arc du héros blanc, tu vois.
Oui, c'est ça.
Et je trouve ça en fait très fatigant de devoir à chaque fois voir ça au cinéma, de devoir le penser, de devoir. Tu vois, moi je suis vraiment. Et Elise me disait, mais tu vois, c'est à ce moment-là où tu te rends compte que tu es un privilégié. Parce que tu te fatigues de ça, alors qu'en fait, ben non. C'est juste parce que toi tu es partout et que la représentation de l'homme cis blanc hétéro.
Que je conseille quand même malgré tout, parce que c'est le jalon là hollywoodien de voir le film de science-fiction Black Panther. Enfin, c'est un film de super-héros du coup, mais il faut le voir, parce que pour moi, quand je l'ai vu, ça m'a la première fois, ça, bon, il y a beaucoup d'archétypes de super-héros, donc on peut se sentir lassé si on a vu tous les Marvels et les comics et tout, mais moi ça m'a bouleversé, dans le sens où il y a une vraie reconnaissance, comme tu dis, d'un arc narratif qui prend son origine en Afrique, tout simplement, là, de là
C'est
où
ça.
vient le héros, et l'histoire se passe en Afrique, et c'est, enfin, en tout cas
Une
dans...
appropriation des codes, de la
Voilà.
culture, c'est
Et
pas
c'est très
n'importe quoi
beau.
en fait.
Esthétiquement, c'est un film magnifique. Enfin, je crois qu'ils ont gagné quand même quelques récompenses là-dessus, hein.
Ouais,
Même
bien sûr.
bah, le personnage, l'acteur principal qui est décédé malheureusement, portait en lui cette volonté d'être plus africain encore qu'il ne l'était, parce qu'il était américain. Il avait fait un véritable travail sur son accent, un travail sur son physique aussi, parce qu'il y a tout un tas d'archétypes, des acteurs noirs en tout cas, et ça c'est compliqué à mettre en place dans un film hollywoodien qui est financé par les grosses majors américaines. Ça c'est hors du
Par
commun.
Disney, du coup.
En plus,
En
Disney est...
plus, certains livres de science-fiction ont justement, à l'époque, Asimov et Bradbury, c'était pas que non plus sur à l'américain, le héros, il était blanc. En science-fiction, l'afrofuturisme, on prend à peine ses lettres de noblesse aujourd'hui et il y a encore du boulot, quoi.
Mais ça reste un problème de littérature assez généraliste. Je te dis, quand j'ai vu ce Live Vert il y a donc 2 ans, je regardais plein de films sur le thème de la décadence. Et donc je me suis dit, la décadence, ça existe depuis des centaines et
Louis
des centaines
Simmons.
d'années. Huysmans, voilà, toute cette littérature qui parle de la décadence humaine. C'est pas un film esthétiquement plaisant, c'est pas un film cool, c'est violent, c'est triste, c'est cruel, c'est déprimant.
C'est froid, c'est très
C'est
froid.
froid.
Soleil vert est très froid et très déprimant, bien sûr.
C'est sale.
Parce que je pense que c'est une manière de représenter une décadence pas romantisée, justement, et de représenter
Bah
quelque
voilà.
chose par le spectre du cinéma, et d'avoir donc donné un autre prisme au décadentisme au final, et de
Voilà.
se dire, mais voilà, la décadence, c'est aussi ça. C'est des gens qui sont complètement tarés et qui peuvent construire des empires où vous allez voir, vous allez vous manger, en fait.
Oui, voilà.
C'est vraiment ça, quoi.
Donc, mais après, voilà, cette esthétique de la laideur, c'est ça qui est intéressant dans la science-fiction, parce qu'elle est
Oui.
carrément 90% de la science-fiction, c'est dans l'esthétique de la laideur. Même le cyberpunk, ça nous parle esthétiquement parce que justement c'est très travaillé. Mais en vrai, ça part de la laideur, ça part des monstres, ça part de la difformité, des choses. Et par exemple, un des films qui m'a le plus fasciné, dont j'ai pas encore parlé, mais j'aimerais bien un jour en parler en podcast, c'est District 9. Enfin, moi, quand j'ai vu District 9 il y a
Ah,
quelques
oh là,
années,
oui.
parce que ça s'est sorti il y a plus de 10 ans, 11.
C'est 2010 ou 2011,
Ouais,
District 9.
c'est super vieux déjà. Enfin, déjà, quand un truc prend 10 ans, c'est vieux pour moi. Et donc,
Mais
franchement.
non!
Aïe, aïe, aïe! Non, du coup, je pense que District 9, c'est pareil, c'est un jalon. Parce que c'est la première fois vraiment. Bon, après, il y avait Blade Runner et tout, mais c'est vrai que c'était pas le sujet principal des films. Mais District
Non,
9
non,
parle
non, je...
vraiment d'apartheid.
Complètement. Et sous le prisme de la SF, c'est quelque chose d'incroyable. Il aurait pu en parler avec un héros blanc, dans le sens où il est vraiment héros, et au final, c'est la plus grosse victime du film, qui se retrouve vraiment malmenée, qui peut pas expliquer. Enfin, c'est horrible ce qui lui arrive, c'est atroce, et je trouve que c'est hyper bien retranscrit en fait.
C'est pas tout
Toute
public.
l'horreur qui lui arrive,
Ouais.
tu te dis, waouh, ouais, c'est incroyable, et tu dis, ouais, mais tu vois, ça, c'est un peu ce qui est arrivé il n'y a pas très longtemps que ça, au final.
Ouais, c'est pas tout public, hein. C'est dur. C'est dur à voir.
Ouais, et même s'il y a des extraterrestres, au final, tu te dis, ouais, là, il y a quand même eu une prise de risque maximale à ce niveau-là, quoi. Et clairement, Alien, en termes de ruines, je pense que
Ah
c'est
bah
ça se
moi,
pose là, quoi.
bah c'est ça que j'essayais de chercher dans mon dossier pour les beaux-arts sur les décors organiques. J'ai
Ah
pris comme
bah...
exemple, j'ai pris Alien, parce que le vaisseau d'Alien, déjà, en quelque sorte, c'est une sorte de ruine errante, comme ça.
C'est ça, ce disque de semi-disque complètement déglingué.
Et puis en même temps, c'est la matrice, c'est le ventre
Oui.
maternel de ce qui reste de l'humain, parce que bon, c'est une compagnie qui envoie des soldats. Se démerder pour coloniser l'extraterrestre en quelque sorte, obtenir un échantillon
C'est ça.
extraterrestre. Échantillon
C'est
récalcitrant.
ça.
Échantillon
Ben,
récalcitrant.
complètement. Pas très coopératif.
Non, c'est violent. C'est...
Toute la solitude, clairement, c'est
Ouais.
vraiment la solitude dans l'espace.
Et ça, c'est marrant parce que du coup, 2001, l'Odyssée d'espace, en termes de science-fiction, ça a apporté la science-fiction du silence en fait. C'est vraiment le silence qui est. Des longues séquences filmées où t'as juste le bruit ambiant de la machine ou les pas ou le bruit des claviers qui enfin c'est prendre le temps de se poser et d'écouter les bruits qu'il pourrait y avoir dans le futur enfin vraiment c'est intéressant c'est pas les gros pétards hollywoodiens la grosse musique il y a dans Gravity aussi des gros moments de silence parce que dans l'espace
Oui.
c'est silencieux c'est le vide donc c'est super intéressant.
Ça me fait penser à comme anecdote où quand Star Wars GT était sorti, ils avaient mis une affiche, attention, il va y avoir pendant tu vois, 30 secondes, plus aucun bruit, c'est normal, c'est une scène du film, et c'est pas parce qu'il y a des gens qui sont pleins, ils ont dit oui, il n'y a pas de bruit, c'est normal, ils sont allés voir le. C'est complètement dingue.
Star Wars pour moi, ça tient beaucoup plus de la fantasy que de la SF dans la réflexion, en tout cas la réflexion. Après, plus récemment, on voit des réflexions très science-fiction, notamment sur l'espèce de séquelle ou préquelle qui n'était pas dans la série, là, comment il s'appelait Star Wars.
Rogue One.
Ah, bah c'est Rogue One, merci Elise.
Ouais, c'est ça, c'est Rogue One.
Non, mais après, voilà, Rogue One, c'est des problématiques de science-fiction, des problématiques d'environnement, de colonisation. Alors que dans Star
Ah,
Wars.
faut peut-être que je le regarde.
Ouais, alors, bon, après, typiquement, c'est toujours plein de poncifs, etc. Et puis, en plus, comme il n'y a pas de suite, après, voilà quoi. Mais du coup, c'est Star Wars pour moi, la série normale, hein, les
Ouais, les
différentes
neuf.
trilogies, les neuf. Ce sont des films qui, pour moi, ne prennent pas, ne s'approprient pas ces thèmes de science-fiction propres. Je pense que quand George Lucas a pensé à créer Star Wars, il était fasciné en effet par cette grande épopée de l'espace au niveau
Oui.
technologique, mais son histoire, c'est un vrai calque, un vrai décalque de notre histoire occidentale, quoi.
Et puis et surtout, il a détesté après avoir fait le 1.
Oui.
Pour lui, ça a été une catastrophe. En production, ça a été,
Ah
ouais,
bah
il
il
a
a pas aimé.
détesté. Alors, il crache pas sur son succès, mais il regrette que ce soit. Parce qu'il dit que Star Wars, c'est pas ses films à lui, en fait.
Oui, voilà, il voulait
Bah,
même plus les
lui,
tourner.
tu vois, donc. Et Effectivement, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord que Star Wars ne s'approprie pas les codes de la science-fiction comme.
Non.
Toute l'esthétique est là, mais manque tout le fond pour que ce soit de la science-fiction.
Ouais.
C'est la raison, c'est presque plus de la fantasy.
Oui, parce que c'est dommage.
Et c'est là où tu te dis, mais c'est incroyable, il y a des lasers, il y a des vaisseaux, c'est piou-piou, ça se passe dans l'espace.
Ouais.
Tout est rassemblé pour faire de la science-fiction, et tu regardes n'importe quel Star Wars, tu te dis, mais putain, ils ont loupé quelque chose.
Oui, c'est ça.
Au niveau de SF, ils ont loupé quelque chose.
C'est ça qui est... C'est vrai qu'esthétiquement, c'est hyper intéressant, c'est vraiment... Puis il y a toujours cet humour américain qui est très fort dans ce type de film. C'est vraiment le space opéra. Contrairement à Star Trek, parce que Star Trek c'est un vrai space opéra, la série qui reprend à la fois l'humour et puis en même temps cet esprit conquête de l'espace, donc dans le sens hommage, enfin éloge aussi de ce que l'Amérique a fait avec la NASA. Mais dans Star Trek, au moins, ils se sont emparés de sujets sociétaux. Des sujets socio-économiques, des sujets de colonisation, des sujets sur l'environnement. Et moi, c'est pour ça que j'aime bien Star Trek.
Oui.
J'aime beaucoup Star Trek. C'est beaucoup plus intéressant que Star Wars.
Mais j'aimerais beaucoup regarder les trois films qui sont sortis, qui sont a priori trois claques blockbusters incroyables où justement ils reprennent tout ça. Et j'avais regardé un youtubeur, et il expliquait, ouais, Star Trek, ça reprend pratiquement des problématiques économiques, d'urbanisme, des trucs vraiment, c'est incroyablement de richesse. Et c'est dommage parce que Star Wars, ils ont tout. Ils ont les peuples, ils ont les. Soit je ne rentre pas dans Star Wars 8, les deux la planète ultra riche où ils font
quasiment
tout le temps avec. Les animaux qui servent de... Enfin, moi, je trouve ça ultra intéressant. Je dis, mais jusqu'où ils vont aller? Et à chaque fois, on se fait avoir.
C'est vrai que quand tu vas sur des planètes Star Wars, bah, il y a les planètes où il y a les ressources minières qui sont complètement épuisées, il y a les planètes, comme tu dis, de casino, il y a les underground, enfin les underworld, enfin les mondes souterrains, les mondes dans les ruines aussi, avec tous ces bandits qui font de la contrebande et la revente d'armes. Enfin,
oui.
Ça, c'est des sujets hyper complexes que seul Star Trek a vraiment essayé d'emprunter. D'ailleurs, Star Trek a dans les films, là, donc les plus récents, ils ont carrément pris le pari de faire que le personnage central, ça soit l'extraterrestre, ça soit Spock. Et donc, c'est ça qui est hyper émouvant. Parce que c'est un autre, c'est celui qui était brimé. Pour Star Trek, ce qui m'a le plus ému et ce qui devrait avoir lieu dans, plus souvent dans la science-fiction aujourd'hui, c'est que l'équipage de Star Trek, depuis la création dans les années 60 de Star Trek, l'équipage, c'est la diversité. C'est des femmes, un personnage noir, un personnage asiatique, des hispaniques. Et dans la série actuellement que j'ai regardée, que j'ai binge-watchée, dans la série Star Trek, c'est pareil, t'as toute la diversité. Alors par contre, dans les commentaires, les joyeux commentaires de l'internet, c'est bon, ils ont coché toutes les cases LGBT+, et ils ont coché toutes les cases diversité, toutes les couleurs. Bah moi je trouve ça formidable, parce que quand tu regardes la série, tu le vois pas. Enfin, moi ça m'émeut beaucoup de voir ça, parce que c'est si facile à faire. C'est si facile pour que les enfants qui regardent ces trucs-là un jour se disent, bah ouais, c'est normal qu'il y ait... Que le chef de bord c'est une femme et qu'elle soit noire, l'ingénieur en chef c'est une femme et elle est asiatique. Fin. Et ça manque un petit peu dans la science-fiction, même chez des grands comme Alain Damasio, etc.
Bien sûr, mais je suis d'accord avec toi.
C'est dommage.
Alors je crois que dans les furtifs, il y a quand même. Tu vois, dans la horde contrevent, il y a quand même, je crois qu'il y a une vingtaine de personnes. Moi, je ne suis pas certain, mais tu vois, il y a des gens qui sont des plantes, il y a des personnes, il y a beaucoup de femmes, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des hommes qui aiment des hommes, des femmes qui aiment des femmes. Je crois qu'il y a quand même une belle représentativité, c'est pas que le français moyen, beurre et baguette, quoi.
Oui, c'est vrai, je crois que j'avais lu dans une critique que c'est vrai qu'il avait, diversifié ses personnages et que ça, c'est très très rare. Malgré tout, c'est vrai que dans... la fantasy qui se rapproche toujours un peu de la science-fiction, on a toujours, même donc dans la science-fiction, on a toujours une grande diversité, de, parce que comme on en parlait dans le podcast, c'est beaucoup de rôles. C'est très peu souvent un personnage oui. central, sauf dans Star Wars où t'as le Christie.
C'est ça.
Alors que oui, c'est plein de petits personnages que tu connais bien dans Dune, dans
ouais.
Fondation, plein de catégories. Ça, c'est cool.
Ben, Dune, normalement, il devrait pas se planter.
Oui, j'ai vu.
Parce qu'il a quand même de quoi ouais. du grain à moudre.
Oui,
ça a l'air.
J'ai vu la bande-annonce.
Le casting a l'air d'être bon. Ouais, ouais, le casting a l'air d'être de tenir ses promesses. C'est vrai que la science-fiction, souvent,
ça manque.
Manque de ça. Et j'ai l'impression que. Là, j'ai lu récemment c'est La Fantasy. Comment les humains ont niqué la fantasy de Karim Berouka. Et c'est assez intéressant. Et alors est-ce que je le conseille parce que c'est très drôle et ça prend vraiment en revers tout ce qu'on peut voir dans la fantasy. Qui ça reprend un peu le ton de Terry Pratchett, donc un ton un peu acide, ouais. mais sans la grosse critique de la métropole londonienne, etc. Non, ça, on reste sur quelque chose de drôle et un peu caustique, ouais. qui remet un peu. Qui secoue un peu les codes de la fantasy. Et ça aussi, j'aimerais plus le voir. Tu vois, de la fantasy un peu, ou de la SF un peu plus.
Barré.
Ouais, voilà, on se lâche un peu plus. Mm. Tu vois, parce qu'à part H2G2, je crois que j'ai jamais ri en lisant de la science-fiction.
Ouais, ouais.
H2G2, c'est merveilleux. Enfin, écoute, je te propose qu'on on a fait bien le tour, on ouais. a bien fait le tour. Mais écoute, merci
à
tous ceux qui nous ont suivis.
Il y a plein de plein de bébés podcasts qui attendent.
Ouais, non, je suis d'accord avec toi, bien sûr. Donc, après, ce qu'on peut faire, c'est demander aux gens de poser des questions et on essaye de faire un retour. On prépare des réponses, tu vois, un truc un peu plus.
Ouais, c'est sûr.
De nouveau, un échange, mais sur des questions, tu vois.
Ouais. Sur des questions science-fiction, ça serait intéressant, ouais.
Ouais, c'est ça, ouais. Mm. Science-fiction, fantasy, parce que je pense qu'on on a assez calé tous les deux. Et tu vois, ça touche tous les médias, cinéma, films. Enfin,
jeux vidéo, du coup, c'est une bonne idée aussi, parce que les jeux vidéo, c'est hyper passionnant.
Ouais, jeux vidéo, ouais. Clairement, ouais. Ouais. Je suis d'accord avec toi.
Donc,
bah écoute, merci.
Bah, merci à toi.
Merci de votre écoute. À bientôt sur les podcasts Histoire Naturelle.